Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Guillaume Ménard. À la réalisation, Anna Olvec, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième étape de notre exploration des liens entre démocratie et économie. Hier, nous avons tenté de percer à jour la relation qu'entretient notre régime politique avec le système capitaliste. Lundi, c'est la résistance à l'impôt, ce pilier de la solidarité nationale qui nous a interpellés. L'heure est venue à présent de sonder les comptes des partis politiques. À chaque élection présidentielle aux États-Unis, les dépenses de campagne atteignent de nouveaux sommets. Des milliards de dollars sont brassés grâce aux super PAC, ces comités d'action politique qui peuvent recevoir des dons illimités. Limité. En France, rien de tel, le financement des campagnes électorales est bien plus régulé. Mais est-il démocratique pour autant ? Les dons privés, qui ont notamment financé l'intégralité de la campagne d'Emmanuel Macron en 2016, faussent-ils le jeu électoral ? Et comment inventer un système plus égalitaire ? Autant de questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Il est 14h sur France Culture et comme chaque jour, c'est l'heure d'entendre l'écho. Pour parler du pouvoir de l'argent dans nos démocraties, nous recevons aujourd'hui Julia Cagé, économiste, professeure à Sciences Po Paris, autrice du prix de la démocratie paru en septembre dernier aux éditions Fayard. Et en fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
On vit apparaître une nouvelle sorte d'homme politique professionnel. On les vit tout d'abord se mettre au service des princes. Ils n'avaient pas l'ambition des chefs charismatiques et ne cherchaient pas à devenir des maîtres. Mais ils entraient dans la lutte politique pour se mettre à la disposition d'un prince. La gestion de ses intérêts politiques leur fournissait leur gagne-pain et le contenu moral de leur vie. Le fait qu'un État ou un parti sont dirigés par des hommes qui, dans le sens économique du mot, vivent exclusivement pour la politique et non de la politique, signifie nécessairement que les couches dirigeantes se recrutent de façon plutocratique. En disant cela, nous ne cherchons nullement à faire accroire que la direction plutocratique ne profite pas de sa situation dominante pour vivre également de la politique et pour exploiter sa position politique au profit de ses intérêts économiques. Cela va sans dire, il n'existe pas de couche dirigeante qui ne l'ait fait d'une façon ou d'une autre. Notre propos signifie simplement que les hommes politiques professionnels ne sont pas toujours directement contraints de réclamer un dédommagement pour leur service politique, alors que l'individu dépourvu de fortune est obligé de prendre cet aspect en considération.
Bonjour Julia Cagé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait d'un ouvrage de Max Weber, Le savant et le politique, publié en 1919. Un texte qui pose d'emblée la question de l'argent dans le recrutement du personnel politique. C'est une question essentielle ?
Oui, c'est une question essentielle, c'est une question centrale. Je pense qu'il y a deux questions fondamentales, celle que vous avez évoquée en introduction, du poids de l'argent privé dans les campagnes électorales, mais il y a aussi une question toute simple d'accès au financement. Et si aujourd'hui on regarde l'origine sociale notamment des candidats, que ce soit pour les élections municipales, que ce soit pour les élections législatives, on voit que l'accès au financement, en fait, fait qu'on a des origines sociales plutôt favorisées parmi les candidats, alors que les plus modestes n'arrivent même pas à aller à l'élection. Donc ça joue un rôle fondamental dont on a conscience en fait depuis environ la fin du 19e siècle, mais que malheureusement on n'a pas su jusqu'à présent suffisamment encadrer.
Ce qu'il faut dire, c'est que la politique s'est professionnalisée, elle s'est complexifiée et c'est comme ça qu'elle est devenue de plus en plus coûteuse.
Non, ça c'est pas exactement le cas. Oui, c'est vrai que la politique s'est un peu professionnalisée, mais elle est devenue de plus en plus coûteuse pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a eu des nouvelles technologies qui ont été introduites, notamment pour faire campagne et pour cibler les électeurs. Il y a encore quelques années, il n'y avait pas Facebook. Donc comme il n'y avait pas Facebook, on pouvait pas faire de la publicité ciblée sur Facebook. C'est pas tant sponsoriser une publicité qui coûte cher. Le problème, c'est que quand vous voulez sponsoriser une publicité de manière idéale, vous voulez cibler des candidats précis. Et ça suppose d'avoir accès à des énormes bases de données qui sont extrêmement coûteuses. Si je regarde historiquement, par exemple, aux États-Unis, avant l'introduction de la télévision, la politique coûtait beaucoup moins cher parce qu'on faisait pas de publicité à la télévision. À partir des années 60-70, quand on se met à faire massivement de la publicité à la télévision, bien sûr, les coûts de campagne explosent complètement. C'est pas le cas en France, où la publicité à la télévision est interdite. Mais il faut savoir qu'en fait, les candidats ont toujours dépensé beaucoup. Ils sont toujours adaptés aux différents différentes formes finalement de financement, aux différentes formes que peuvent prendre les campagnes électorales. Pour vous donner un exemple, parce que je connais bien le cas du Royaume-Uni que j'étudie actuellement avec Edgar De Witt à Sciences Po Paris. On étudie le cas du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, on a les données sur les dépenses électorales depuis 1850. Donc on a plus de 150 ans de données. Et en fait, même à la fin du 19e siècle, il n'y a pas beaucoup de technologies pour faire campagne qui étaient très modernes. Il y avait à peine les journaux. Et pourtant, les candidats dépensaient énormément parce que, par exemple, les électeurs, fallait qu'ils se déplacent pour aller voter. C'était des grandes circonscriptions électorales. Et vous aviez à l'époque des candidats qui payaient des billets de train en première classe à leurs électeurs et qui parfois d'ailleurs les payaient aussi pour compenser la journée de travail perdue. Alors ça a été régulé, ça a été encadré, ça a été interdit, notamment le fait de payer un électeur pour compenser le fait qu'il aille voter. Mais on voit qu'on n'a jamais manqué d'imagination à ce sujet.
Donc c'est dans ce contexte, et c'est ce qui explique que c'est le Royaume-Uni qui a été l'un des premiers pays à limiter les dépenses électorales à la fin du 19e siècle.
Oui, c'est le Royaume-Uni qui a été le premier pays à complètement innover sur ce sujet-là. En fait, vous avez plusieurs actes. Vous avez le Corruption Practice Act, le premier de 1857, et après il continue en 1883. Donc il commence par encadrer les dépenses, c'est-à-dire voilà ce qui est autorisé, voilà ce qui n'est pas autorisé. Donc ce qui n'est plus autorisé, par exemple, c'est de payer un billet de train ou d'envoyer une calèche pour aller chercher ses électeurs. Même si, là je tiens encore à souligner, entre parenthèses, on manque jamais d'imagination, et il y a encore toute une problématique, notamment aux États-Unis, des partis politiques qui envoient des bus devant les maisons de retraite aux États-Unis pour amener les électeurs voter massivement. Voilà, ils les paient pas directement, mais on peut interroger ces pratiques. Et ensuite, au Royaume-Uni, ils obligent les candidats à déclarer leurs dépenses. Les dépenses sont limitées. Et là, vous avez la mise en place très tôt, en comparaison historique, d'une commission électorale qui va vérifier à chaque élection l'ensemble des dépenses et vérifier que ça ne dépasse pas le plafond. De ce point de vue-là, la France a eu un siècle de retard.
C'est ça, la France intervient beaucoup plus tard, et la France intervient même sur ces questions après les États-Unis, l'Italie, le Canada. Comment on peut expliquer un tel retard ?
C'est une très bonne question, mais vous savez, du point de vue démocratique, la France a eu beaucoup de retard sur beaucoup de plans. Par exemple, il faut attendre 1944 pour avoir le suffrage universel en France. Le droit de vote, il est donné au Royaume-Uni aux femmes entre 1918 et 1928, enfin de manière partielle en 1918, de manière totale en 1928. Aux États-Unis, ça varie entre les États, mais ça se passe entre la fin du 19e siècle et la Première Guerre mondiale. Nous, en France, c'est 1944. Sur la question de la régulation du financement, c'est une bonne question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est pas pourquoi ça s'est pas fait avant, c'est pourquoi ça s'est fait à ce moment-là. Ça se fait entre 1988 et 1990, comme ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres pays à la suite d'un certain nombre de scandales. Vous avez des scandales autour du financement des partis qui frappent à l'époque le Parti Socialiste notamment sur la table, et là on se dit ok, il faut réguler, il faut encadrer, puis il y a aussi toutes les leçons de l'histoire finalement, puisqu'on sait ce qui s'est passé ailleurs, donc finalement on tire parti de ce qui s'est fait ailleurs pour introduire un certain nombre de régulations en France. Mais c'est vrai qu'en comparaison historique, ça vient extrêmement tard.
Alors justement, sur cette question des scandales, c'est notamment l'affaire Urba qui va contribuer à mettre en lumière le système, le trouble du financement des partis politiques. Et c'est alors le Parti Socialiste qui est épinglé alors que débute le second septennat de François Mitterrand. Alors,
il faut se mettre à la place d'un candidat député, un jeune candidat député. Bon, il se présente dans une circonscription, il est d'un parti X, et puis le candidat d'en face, qui est le parti Y, il couvre la ville d'affiches. Donc le candidat qui n'a pas beaucoup d'affiches, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça, comment je vais faire, je vais me faire écraser là, il met des affiches partout, il finance des meetings, etc. Et moi j'ai pas l'argent, donc je peux rien faire, etc. Il faut que je trouve un système. Et en général, comme c'est pas des gens très riches, et comme le parti lui est un peu impécunieux, il faut qu'il trouve un système. Et donc il faut se débrouiller. Alors à l'époque, là aussi c'est un élément de contexte important pour l'affaire Urba, c'est que le parti gaulliste et les partis de la majorité, ils étaient aux manches. Aux manches, depuis 58, de manière ininterrompue. Alors, quand vous êtes dans l'appareil d'État, c'est quand même plus facile. C'est tout aussi délictueux, hein, mais c'est plus facile. D'abord, il y a les fonds secrets de Matignon que vous pouvez utiliser. Et puis, vous passez toutes sortes de marchés. Donc, c'est facile de dire, bon, bah, dis donc, mettez un peu de côté pour le parti.
Voilà, c'était le journaliste Laurent Geoffrin qui revenait sur l'affaire Urba au micro de Fabrice Drouel sur France Inter. Qu'est-ce que cette affaire en particulier a révélé, et surtout qu'est-ce qu'elle a permis, Julia Cagé ?
Elle a révélé l'hypocrisie du système. Je ne veux pas du tout défendre le Parti Socialiste, mais à l'époque on avait un système qui disait en France la chose suivante. Les partis politiques en France, ni les candidats d'ailleurs, ne peuvent recevoir de financement public. Donc il n'y avait pas de financement public. Deux, les partis politiques, en fait, ils étaient régulés par la loi sur les associations de 1901, ils ne pouvaient pas non plus recevoir de financement privé. Donc ils avaient le droit de recevoir les cotisations de leurs adhérents, mais ils n'avaient pas le droit de recevoir des dons. Et trois, les partis politiques, il n'y avait pas d'encadrement autour de ça, comme les candidats pouvaient effectuer des dépenses de campagne. Alors la question, c'est comment ils payaient pour ces dépenses de campagne, puisqu'il n'y avait pas de remboursement des dépenses de campagne, il n'y avait pas de financement public des partis, et il n'y avait pas de financement privé. Et en fait, le système marchait sur la tête, il était complètement hypocrite, puisqu'on voyait tous que les partis dépensaient, sauf qu'officiellement, il n'y avait rien qui rentrait dans les caisses, et donc le Parti Socialiste...
a été épinglé, mais ça aurait pu être n'importe quel autre.
Oui, oui, mais c'est, encore une fois, c'est pas du tout pour excuser le Parti Socialiste, mais c'est vrai qu'ils ont eu recours à une méthode qu'on a retrouvée ensuite dans les années 90 en Italie, puis à d'autres moments dans d'autres pays, qui consistait à se faire payer sous la table des pots de vin en échange de l'attribution de marchés publics. Cette méthode, elle est pas saine, et elle nous dit deux choses. Elle nous dit que d'une part, il faut suffisamment de moyens pour les instances de régulation qui encadrent le fonctionnement de la démocratie. Elle nous dit une deuxième chose, que si on veut pas que le financement de la démocratie soit capturé par de l'argent et par les intérêts privés, alors il faut un financement public conséquent du jeu démocratique.
Mais alors justement, cette loi du 11 mars 1988 va instituer le principe d'un financement public des partis politiques et il va y avoir également un plafonnement des dons privés. C'est véritablement un changement important ?
Oui, c'est un changement qui est très important et c'est vrai que quand je publie le prix de la démocratie et que je dénonce les dérives françaises sur lesquelles on va revenir, il y a plein de réactions qui consistent à dire mais enfin regardez par rapport à ce qui se faisait dans les années 80, c'est mieux. Oui, c'est certes mieux ce qui se fait aujourd'hui ce qui se faisait dans les années 80 et d'ailleurs c'est mieux qu'aujourd'hui les femmes puissent voter alors que dans les années 30 elles n'avaient pas le droit de voter en France.
Mais
ça veut pas dire qu'on peut pas faire encore beaucoup mieux.
Et alors justement, qu'est-ce qui vous paraît insuffisant dans ce système de régulation tel qu'il existe aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait que ce sont surtout les plus aisés qui font des dons aujourd'hui?
Oui, alors il y a plusieurs insuffisances. Il y a des insuffisances autour de la régulation des dons privés et il y a des insuffisances autour du fonctionnement du financement public. En ce qui concerne les dons privés, on a l'impression en France qu'on est protégé des dérives américaines parce qu'on a mis des plafonds de dons. Donc un individu aujourd'hui ne peut pas donner plus de 7 500 € par an à des partis politiques et plus de 4 600 € à des campagnes électorale. Et ça, on a l'impression que ça égaliserait l'ensemble des citoyens face au financement de la démocratie. Moi, j'ai fait quelque chose de très bête. J'ai pris les données fiscales françaises dans lesquelles les individus déclarent leurs dons aux partis politiques. Je me suis dit, je vais regarder qui donne aux partis politiques et comment ça varie en fonction de son niveau de revenu. Et là, il y a deux choses qui apparaissent très clairement. La première chose, c'est qu'en moyenne, les Français ne donnent pas aux partis politiques. Et là, je définis dons au sens très large. C'est les dons, c'est les cotisations des adhérents et c'est même le reversement des élus d'une partie de leur rémunération d'élus. La plupart des Français ne donnent pas, donc vous avez moins de 1% des Français qui chaque année donnent aux partis politiques. Et deux, les très riches donnent énormément. Parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus aisés, vous avez 10% des ménages qui chaque année font un don à un parti politique. Deuxième chose, si vous prenez 90% des Français qui donnent à un parti politique, en moyenne, ils donnent 120 € à un parti politique. Donc c'est des petits dons, et d'ailleurs souvent ça correspond au montant de la cotisation. Maintenant, si je prends parmi les 0,01% des ménages aux revenus les plus élevés qui font un don à un parti politique, en moyenne, chaque année, ils donnent 5 245 €. Donc on n'est pas loin du plafond de 7 500 €. Il y a deux problèmes ici. Le premier problème, c'est qu'on a l'impression qu'on donne à chacun la liberté de participer financièrement au financement de la démocratie. Si vous êtes riche, bah oui, vous pouvez faire un don de 7 500 €. Maintenant, si vous faites partie, mais pas seulement de la moitié des Français les plus modestes, si vous êtes au salaire médian, chaque année, vous n'avez pas 7 500 € à donner à un parti politique. Donc on fait semblant que tout le monde peut exercer cette espèce de liberté d'exprimer ses pensées politiques à travers le don, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Et si on regarde les chiffres, 120 € en moyenne versus 5 245 €, en fait, vous avez une poignée de Français qui ont 40 fois plus de voix financière que la très large majorité des citoyens. Et le deuxième problème dans ce système-là, c'est que ces dons que font les plus riches aux partis politiques, ils ouvrent droit à une réduction fiscale.
Des deux tiers environ ?
Oui, des deux tiers, de 66%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous faites partie des Français les plus favorisés, vous faites un don à un parti politique de 7 500 €. En fait, le coût réel pour vous n'est que de 2 500 €. Les 5 000 € restants sont payés par l'ensemble de la collectivité. Donc vous avez, un, cette liberté d'exprimer financièrement vos opinions politiques, et deuxièmement, c'est pris en charge aux deux tiers par l'ensemble des citoyens. Maintenant, c'est une réduction fiscale. Ça veut dire quoi, une réduction fiscale? Ça veut dire qu'il n'y a que les gens qui paient l'impôt sur le revenu qui peuvent en bénéficier.
Or, 50% donc, de la population ne paye pas l'impôt sur le revenu.
Elle paie la CSG, ils paient la TVA, ils paient énormément d'impôts, simplement pas l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, un, ils vont pas donner 7 500 €, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'en ont pas les moyens. Deux, quand ils font un don de, disons, 300 euros, ce qui est déjà une somme très importante, eux, ils paient plein pot. Ils paient 300 euros. Donc plus on est pauvre, finalement, plus on va payer pour satisfaire les préférences politiques des plus riches.
Alors il y a cette question des dons privés qui est importante, et puis il y a aussi le fait qu'un peu partout en Europe, les partis ont de moins en moins recours au financement public. En Italie, par exemple, les élections de 2018 se sont déroulées pour la première fois sans aucun financement public. Alors comment l'expliquer, Julia Cagé ?
Alors en Italie, c'est pas seulement que les partis n'ont pas recours au financement public. En Italie, c'est que le gouvernement, en 2014, a décidé de mettre fin au financement public des partis politiques. En fait, c'est extrêmement intéressant le cas de l'Italie, et c'est un cas que j'étudie en détail dans mon livre, parce que je pense que malheureusement, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé en Italie pour pas aboutir aux mêmes dérives demain en France. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie ? Vous le rappeliez tout à l'heure, l'Italie a innové relativement tôt en termes de financement de sa démocratie. En 1974, vous avez l'introduction d'un système complet de financement public des partis politiques, avec à la fois un financement public direct des partis politiques, donc une subvention qui est donnée chaque année aux partis, et un remboursement des dépenses de campagne. Ça s'est mis en place en 1974. Et ensuite, ce système va être déconstruit en deux temps. Il va être déconstruit dans un premier temps, en 1992-1993, où vous avez le scandale Manipulite, donc le scandale des mains sales, ce qui est à peu près l'équivalent du scandale Urba qu'on évoquait tout à l'heure pour le Parti Socialiste en France, sauf que là, ça éclabousse l'ensemble de la classe politique italienne en même temps, et d'ailleurs, ça mettra fin à la première république italienne, et avec tous les partis qui s'effondrent, puisqu'on s'aperçoit qu'ils sont corrompus par de l'argent privé. Quelle est la réaction à ce moment-là ? C'est extrêmement intéressant, et c'est pour ça que je veux vraiment insister là-dessus, pour qu'on en tire les leçons. Ce scandale est un scandale de corruption par de l'argent privé des partis politiques, et les Italiens font un référendum d'initiative populaire pour mettre fin au financement public direct des partis. Avec cet argument, tous pourris. Ils sont tous pourris, donc en plus, on ne va pas utiliser l'argent de nos impôts pour les financer.
Mais en France, on en est tout de même très loin. La part des financements publics est très importante.
Alors, ça, je vais finir l'histoire italienne. Je reviens sur la France, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, cette histoire italienne. Il restait une deuxième moitié de financement public, qui était les remboursements de dépenses de campagne, dont les valeurs, les montants ont énormément augmenté dans les années 90-2000 pour compenser, on va dire, la perte du financement public direct. Le mouvement 5 étoiles a fait de son cheval de bataille, c'est un de ses principaux arguments de campagne dès sa création, la fin du remboursement public des dépenses de campagne. Vraiment en utilisant cet argument du tous pourri, il faut mettre fin aux partis politiques et au système tel qu'il existe aujourd'hui, il faut faire de la politique autrement, on va pas utiliser l'argent public pour financer la démocratie. Ils ont obtenu gain de cause en 2014, puisqu'en 2014 on vote la fin progressive du remboursement des dépenses de campagne, et en 2018 c'est les premières élections en Italie depuis 1974 à se faire sans remboursement public, sans aucun financement public de la démocratie. Et on voit ce qui arrive à l'arrivée, vous avez d'un côté la Ligue et de l'autre côté le mouvement 5 étoiles. Alors bien sûr, c'est à la fois une cause et une conséquence, mais c'est assez symptomatique en fait de ce qui est en train de se jouer à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en France ? Bien sûr, en France, on a encore, et c'est tant mieux, un financement public des partis politiques. Mais la rhétorique tous pourris, elle est quand même extrêmement présente, c'est-à-dire qu'on a plutôt des attaques qui sont faites, alors pas exactement aujourd'hui en France sur le financement public, mais plutôt par exemple sur la rémunération des élus. Pourquoi dépense-t-on l'argent de nos impôts pour faire fonctionner le Parlement ? Et deuxièmement, on a vu, et d'ailleurs c'est extrêmement problématique, hein, qu'un certain nombre de partis politiques ont des problèmes aujourd'hui pour accéder à des prêts pour aller aux élections européennes. Et là où pour moi la réponse est de dire il faut une banque publique de la démocratie pour que ces partis aient accès à un financement public qui leur permette d'aller à l'élection.
C'était une proposition de François Bayrou.
C'était une excellente proposition de François Bayrou que je reprends en partie à mon compte dans le livre. Je pense qu'il faut aller plus loin que la démocratie, que la banque publique de la démocratie, mais je pense qu'il faut une banque publique de la démocratie. Et je regrette que cette proposition ait été abandonnée. Et à la place de défendre ça, moi j'entends tous les partis politiques finalement mettre en place des stratégies de levée de fonds pour avoir davantage d'argent privé.
Mais justement, vous parlez de la difficulté d'un certain nombre de partis, alors on peut citer le Rassemblement National, la France Insoumise, à obtenir des prêts auprès des banques pour financer la campagne des élections européennes. Comment est-ce que vous expliquez cette frilosité des banques ?
Ce qui est extrêmement problématique, il faut savoir comment fonctionne le système en France. Le système en France, vous avez un plafond de dépenses. Ensuite, pour tous les candidats qui obtiennent, alors pour les élections européennes, le seuil est à 3%. Donc pour toutes les listes aux élections européennes qui obtiennent plus de 3% des voix, vous avez le droit à un remboursement public des dépenses de campagne à hauteur de 47,5% du plafond.
Donc, mais qui est assuré au niveau national, pas au niveau européen.
Non, oui, qui est assuré au niveau national, mais pour rembourser le financement de la campagne européenne. Pour le dire très vite, ça veut dire quoi ? J'arrondis les chiffres, ça veut dire qu'en gros, les partis peuvent dépenser jusqu'à 9 millions d'euros et tous les partis qui auront plus de 3% des voix auront un remboursement public à hauteur de 4 millions d'euros. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que très concrètement, tous les partis dont on est sûr aujourd'hui qu'ils feront plus de 3% des voix aux élections européennes devraient au moins obtenir de n'importe quelle banque un prêt de 4 millions d'euros. Puisque cet argent qui sera dépensé, on sait qu'il donnera lieu à un remboursement public.
Mais alors pourquoi ce n'est pas le cas ?
Mais parce que c'est pas le rôle des banques privées de prêter de l'argent à des partis politiques. Je pense qu'à un moment, les banques privées ont fini par le comprendre. Ça fait des années, de ce point de vue-là, que le Front National a du mal à obtenir un accès auprès des banques. Et d'ailleurs, ce parti va se financer auprès des banques russes. Franchement, loin de moi l'idée de défendre le Rassemblement National. On pourrait pas trouver plus opposé à mes convictions politiques et à ce que je défends. Bon. Une fois que j'ai dit ça, soit on considère que c'est un parti qui peut participer aux élections et qui a sa place dans le spectre politique français, soit on considère que c'est pas le cas. A priori, c'est un parti qui peut participer aux élections. Dans ce cas-là, je ne trouve pas normal qu'un parti qui arrive au deuxième tour des élections présidentielles, un parti qui va arriver selon toute évidence, et je le regrette, mais qui va arriver selon toute évidence en première ou en deuxième position aux élections européennes, n'ait pas facilement accès à une avance sur des montants qui vont donner lieu à remboursement public. Et c'est pas aux banques privées de le faire. Moi, je comprends très bien qu'une banque privée n'ait pas envie de voir son nom associé au Rassemblement National. Et en fait, les banques, elles vont plus loin dans cette frilosité-là, parce qu'elles se disent « Attendez, si on prête pas au Rassemblement National, mais que demain on prête à la France Insoumise ou aux Républicains, on va nous accuser de favoriser telle ou telle
d'être
partie. »
D'être affiliés.
Et donc là, elles ont décidé de fermer le rideau.
Et alors, pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, Julia Cagé, qu'il y ait une transparence sur les dons des donateurs ? On se souvient qu'en décembre, le JDD a révélé que 1,2% des dons envoyés au mouvement d'Emmanuel Macron en 2016 représentaient finalement 48% de la somme totale, ce qui a confirmé l'image d'un président élu par les plus aisés.
Oui, bah alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la France est en retard sur tous les points, et sur ce point-là aussi, la France est extrêmement en retard. Je vais vous citer un certain nombre de démocraties plus ou moins fonctionnelles aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, au Brésil, en Inde. Quand vous avez des dons faits à un parti politique ou à un candidat au-dessus d'un certain montant, l'identité des donateurs est publique. Pourquoi ? Pour éviter la corruption, pour éviter la capture, pour éviter les conflits d'intérêts, et aussi pour éviter le doute. Regardez tout le débat là qui est en train de se faire autour de la privatisation d'aéroports de Paris. À qui ça va bénéficier ? Et puis une fois qu'on saura à qui ça va bénéficier, les gens vont regarder, mais est-ce qu'ils n'ont pas financé la campagne d'Emmanuel Macron ? Et c'est normal que les gens s'interrogent. Mais normalement, c'est fait de manière transparente. Vous allez en Allemagne, sur le site du Bundestag, vous avez toute la liste des dons qui sont publiés, avec même les reçus dons. Au Royaume-Uni, c'est publié dans le mois qui suit le don. Même les dépenses sont publiées aussi en ligne de manière transparente. Il faut mettre un peu de transparence dans le débat politique. Et c'est vrai que c'est assez fou qu'en France, on refuse de faire des progrès sur ce point. Et je me souviens très bien Emmanuel Macron, pendant la campagne de 2017, quand il était interrogé sur ce sujet-là, il disait « Moi, je ne peux pas révéler le nom de mes donateurs parce que ce n'est pas dans la loi. Du coup, ça serait aller contre la volonté de mes donateurs et surtout aller contre le fonctionnement de la démocratie française. » Très bien. Il se trouve que maintenant, il a été élu président, donc il suffit qu'il change la loi.
Alors, les États-Unis sont peut-être meilleurs que nous sur la question de la transparence, mais sur la question les dons et sur leur caractère illimité, il y a sans doute des efforts à faire. Dans cet extrait de la saison 2 de la série House of Cards, le président Garrett Walker s'interroge sur la provenance des 25 millions de dollars que l'opposition a réussi à collecter.
25 millions ? Tombé du ciel ?
C'est notre estimation.
D'où provient le financement ?
Des comités d'action.
Ce sont des campagnes thématiques.
Qui donne au comité ?
On devra attendre la prochaine déclaration d'impôt pour le dire.
Si on rate les élections de mi-mandat, autant dire adieu à 2016. Je vous souhaite à tous bien du plaisir dans l'opposition.
Le comité de campagne va contre-attaquer.
En sortant 25 millions d'euros ?
De notre bas de laine.
On serait loin du compte.
On intensifierait au maximum les collectes, que ça ne suffirait pas. Il faut assécher leur financement.
Dites-moi comment ?
On identifie la source et on ferme le robinet. Avec ce genre de rentrée, on peut être sûr que quelqu'un ne joue pas dans les règles. Mais pour donner l'alerte, il faut savoir d'où elles viennent.
Alors trouvez. Et trouvez-moi ça rapidement.
En attendant, j'ai esquissé des propositions pour contrer les attaques dans le cadre d'une série de spots nationaux. Je vous envoie ça dans la journée.
Il ne faut négliger aucune idée. Mesdames, messieurs, au travail.
Voilà, c'est donc un extrait de la série House of Cards. Une réaction, Julia Cagé, à l'extrait que l'on vient d'entendre.
Oui, bah alors tout à l'heure je disais la transparence sur les dons aux États-Unis. Alors il y a plusieurs choses. Un, vous avez raison de le rappeler. Je pense que c'est bien le seul aspect positif aujourd'hui du financement de la démocratie américaine, qui, comme la démocratie italienne, a été complètement dérégulée autour des 30 dernières années. Hein. C'est pas que ça a toujours mal marché aux États-Unis, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de règles entre 1971 et 1974 notamment, et qu'elles ont été détricotées au fur et à mesure, notamment par la Cour suprême américaine, qui a décidé qu'il fallait considérer l'argent comme du discours. Money is speech, d'après la Cour suprême américaine. Et comme on ne peut pas limiter le discours au nom de la liberté d'expression, on ne pourrait pas limiter les dons aux partis politiques ou aux campagnes au nom de cette même liberté d'expression. Ça, c'est
vous
la première
référence
chose.
À ce décret de 2010 qui abolit, qui fait que les plafonds de dons sont abolis pour les PAC.
Alors, en 2010, c'est Citizen United. Donc ça, c'est vraiment la dernière brique qui vient faire tomber toutes les règles qui entouraient le financement. Donc au fur et à mesure, au départ, tout était limité, les dons des individus, les dons des entreprises étaient interdits, il y avait une certaine régulation autour des PAC. Au fur et à mesure, d'abord la Cour suprême a autorisé les dons des individus. Après, ils ont eu cette décision extrêmement intéressante, ils ont dit non seulement « money is speech », mais du point de vue du discours, les entreprises doivent être considérées comme des individus. Donc comme les entreprises sont des individus et qu'on ne peut donc pas limiter leur liberté d'expression, eh bien, il n'y a plus de limite ni d'encadrement aux dons que peuvent faire les entreprises aux campagnes. Et la dernière chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont ouvert grand la porte à toutes les dérives au niveau des PAC, notamment parce que tout à l'heure, c'est vrai que je soulignais le fait qu'il y avait de la transparence sur les dons des individus. Donc demain, vous faites un don au-dessus de $200. Ça, c'est le seuil de transparence aux États-Unis à un candidat. Ça doit être publié. Il y aura le nom du donateur et le montant du don, puis le nom du récipiendaire. Sauf qu'en fait, les PAC, et notamment les super PAC, aujourd'hui agissent comme des espèces de super boîte noire, d'où l'interrogation qu'on entendait là dans la série, ce qui permet finalement un certain nombre d'entreprises et d'individus de donner sans apparaître. Et c'est là où, encore une fois, on voit l'importance de la régulation complète du système, parce que c'est vrai que si vous mettez de la transparence sur les dons faits par les individus qui sont publiés en ligne, c'est très bien, mais si derrière vous permettez des montages complètement obscurs, ou à l'arrivée vous avez une énorme PAC, on voit combien cette PAC dépense, mais on voit pas qui la financer, c'est un peu compliqué. Et le principe des PAC, juste au cas où vous...
Juste, ouais, rappelez-nous peut-être exactement ce qu'est un PAC.
Ce que c'est ici. En fait, les PAC, ça a été créé au départ comme des comités d'action politique. Donc c'est des groupes qui peuvent défendre certains sujets ou faire la campagne d'un candidat, pousser ses idées, mais qui ne doivent pas travailler, alors ça c'est la règle, en coordination avec la campagne. Donc c'est pas censé être une force de financement ou un outil de levée de fonds pour la campagne, c'est juste, voilà, vous voulez demain faire campagne aux États-Unis, moi je soutiens vos idées, je peux créer une PAC où je vais faire campagne finalement pour vous. Mais le point de départ de ça, et ça encore une fois c'est une énorme hypocrisie du système, c'était de dire qu'il ne fallait pas communiquer entre les deux. Donc je suis pas censée travailler pour vous d'une certaine manière. Sauf qu'en fait, si on regarde la réalité des choses aux États-Unis, on voit des allers-retours incessants entre les comités de campagne des candidats et les PAC qui agissent en fait comme des bras armés des différentes campagnes électorales.
Et ce qui est intéressant et qui peut sembler étonnant, c'est que c'est Barack Obama, candidat démocrate à l'époque, qui a été l'un des premiers à choisir un financement privé lors de la campagne de 2008. Et c'est à partir de ce moment-là, Julia Cagé, que les financements publics ont été en quelque sorte ringardisés.
Oui, là, vous me brisez le cœur, mais bon, c'est moi qui l'ai écrit dans mon livre. Et quand j'ai remonté ce fil-là, c'est vrai que c'était un peu violent parce que... Et après, en même temps, quand on comprend ça, c'est pas étonnant de voir que Barack Obama n'a rien fait, finalement, pour limiter l'influence des dons privés dans le jeu démocratique. Donc, pour expliquer exactement ce qui s'est passé. En 1974, les États-Unis ont mis en place un système de financement public de leur élection présidentielle, qui conduit au remboursement total des dépenses faites par les candidats au moment de l'élection présidentielle. Et c'est un peu fou parce qu'on l'a complètement oublié. Entre 1974 et 2004, l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis, en fait, ont eu droit à un remboursement total de leurs dépenses de campagne. Donc c'était un système qui fonctionnait sur fond public et c'était une excellente chose. Sauf qu'en fait, dès le départ, dès 1974, le verre était dans la pomme. Pourquoi ? Parce qu'on avait un système qui disait la chose suivante aux candidats. Voici le plafond de dépenses. Si vous dépensez au niveau de ce plafond de dépenses, pas plus, et que vous renoncez à tout don privé, dans ce cas-là, vous aurez le droit à un remboursement public à 100% de vos dépenses de campagne. Mais si vous voulez dépenser plus, libre à vous. Dans ce cas-là, vous n'avez pas du tout le droit à l'argent public et vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est un système un peu particulier, hein. Je veux dire, dans le système français actuel, quand on voit avec l'affaire Big Malion autour de la campagne de Nicolas Sarkozy
en 2012,
il a dépensé au-dessus du plafond de dépenses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'affaires qui sont... Ça donne lieu à des enquêtes d'un point de vue judiciaire. Il a dépensé au-dessus du plafond, il n'avait pas le droit. Vous n'avez pas le droit de dire en France, écoutez, moi je ne prends pas mes 47,5% d'argent public, je fais ce que je veux. Non, il y a un plafond, vous n'avez pas le droit de dépasser ce plafond. Aux États-Unis, on avait ouvert cette possibilité-là, et il se trouve que le premier...
Et maintenant, c'est la norme.
À avoir saisi cette possibilité-là, c'est Barack Obama, lors de sa première élection en 2008. Et depuis 2012, en 2012, l'ensemble des candidats l'ont fait pour l'élection générale, et en 2016, l'ensemble des candidats, à la fois pour les primaires et pour l'élection générale, ont entièrement renoncé au financement public. About the fortune of the Greeks, the Trojan horse won the war and snatched the golden fleece. There were women screaming, soldiers breaking down the door. Even Icarus was flapping to escape the Minotaur. It happened suddenly, Athens fell into the sea. The dream had ceased to be. Death of democracy. Well, you can slave away your life and never pay it back, 'cause money is the law, so get your hands behind your back. You don't need to know what we have put upon your plate, and you don't need no oracle to recognize your fate. Suddenly, Athens fell into the sea. The dream had ceased to be the death of democracy. Fought with sandals on their feet. Now they're selling sneakers on the corner of the street. It's a joke that isn't funny. It's a room without a door, and it's only printed money. So just go print some money.
Vous écoutez Death of Democracy, le Kula Shaker sur France Culture dans l'émission Entendez-vous l'écho, et nous poursuivons notre discussion sur le pouvoir de l'argent dans le jeu démocratique en compagnie de l'économiste Julia Cagé. Alors on a détaillé les systèmes de financement des partis politiques en France, aux États-Unis, en Italie. Quelles sont pour vous, Julia Cagé, les conséquences de ce recul du financement public que l'on observe un peu partout ?
La crise de la représentation. À laquelle on voit aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes en France. On voit aussi la montée d'un certain nombre de partis d'extrême droite en Hongrie, en Pologne, au Royaume-Uni. On a eu le vote pour le Brexit, on a vu le résultat des élections en Italie. On voit aussi l'extrême droite qui reprend de plus en plus d'importance dans le jeu politique allemand. Tout ça, bien sûr, ce n'est pas entièrement dû à la capture du jeu démocratique par les financements privés, mais c'est en partie dû à la partie à la capture de la démocratie par les financements privés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à quoi ça conduit finalement cette importance croissante des financements privés ? Ça conduit au fait que vous avez des candidats qui vont faire de plus en plus campagne, pas auprès de l'ensemble des citoyens, mais auprès de ceux qui ont les moyens de les financer. Et tout à l'heure, vous évoquiez l'article du JDD qui détaillait les dons reçus par Emmanuel Macron entre mars 2016, la création d'En Marche, et mai 2017, l'élection présidentielle. C'est extrêmement intéressant de regarder la provenance géographique de ces dons. Vous avez environ 13 millions d'euros qui sont reçus hein, pendant ces quelques mois. Vous avez plus de la moitié déjà qui vient de Paris. Et d'ailleurs, Le Monde a sorti une infographie il y a tout juste quelques semaines en regardant à l'intérieur des arrondissements de Paris. Et on voit très bien qu'il y a un biais géographique très fort à l'intérieur même de Paris. Mais au-delà de ça, si vous regardez en France, une ville comme Lille a contribué à environ 31 000 euros de dons pour la campagne d'Emmanuel Macron. Une ville comme Londres, c'est 800 000 euros.
Et ce que vous dites, c'est qu'il n'y a aucun don gratuit et que tout don, finalement, attend une contrepartie qui devra se manifester au cours du mandat.
C'est pas que ça. Il n'y a pas juste une contrepartie qui doit se manifester au cours du mandat. Il y a aussi le temps passé. Ça veut dire quoi lever 800 000 euros à Londres? Ça veut dire quoi lever plus de 100 000 euros à New York ou une somme quasiment équivalente à Beyrouth? Ça veut dire, et d'ailleurs Emmanuel Macron en avait fait d'une certaine manière un argument de campagne, il s'en est pas entièrement caché. Hein. Ça veut dire que vous allez passer énormément de temps à Londres, notamment à dîner, avec des millionnaires le plus souvent ou des gens extrêmement favorisés qui travaillent à la City, qui travaillent dans le domaine du conseil, qui travaillent dans le domaine de la finance. Qu'est-ce que vont vous dire ces citoyens français exilés à Londres? Ils vont vous dire, écoutez, Monsieur Macron, je pense que si vous êtes élu président demain, l'urgence est sans aucun doute de supprimer l'exit tax, par exemple, puisqu'en fait, ils ont dû payer pour une partie d'entre eux cette exit tax. Et puis, je pense aussi que l'urgence, puisqu'en fait, vous faites aussi des dîners de levée de fonds auprès des plus favorisés en France, est de supprimer l'ISF. Parce que franchement, l'impôt sur la fortune, ça pèse trop lourdement sur nos épaules. Et c'est pas quelque chose qui revient à dire « je vous donne 7500 euros, en échange, vous supprimez l'ISF ». C'est que vous faites des dîners, vous passez du temps à lever de l'argent auprès d'individus auxquels, c'est vrai, vous allez promettre plutôt de supprimer l'ISF. C'est une vraie différence entre ça et faire une campagne où vous allez passer du temps à Lille. Vous allez passer du temps dans une ville que je connais bien, à Marseille. Vous allez passer du temps dans des plus petites villes, à Orléans. Vous allez passer du temps à Dijon. Vous allez passer du temps, ce qu'on appellerait aujourd'hui sur les ronds-points, mais vous voyez, avec la moitié des Français les plus modestes. Là, si vous faites ça comme candidat, il y a quand même une chance qu'un certain nombre de Français vous disent « Vous savez, Monsieur Macron, en fait, on est à 5 euros près ». Et donc, une fois que vous êtes élu président, vous n'allez pas aller gratter 5 euros sur les APL.
Ce qui est vrai, c'est qu'en dehors de Paris, la plupart des villes avaient assez peu de donateurs.
Oui. Vous avez un peu Lyon aussi. C'est le phénomène Gérard Collomb.
Et ce que vous dites, Julia Cagé, c'est que le virage à droite que l'on peut observer au cours des dernières décennies, et en particulier le fait qu'un certain nombre de politiques qui peuvent être jugées conservatrices ont été mis en place par des membres de partis jugés plutôt à gauche, comme le parti travailliste au Royaume-Uni du temps de Tony Blair, comme le parti démocrate avec Hillary Clinton ou encore Matteo Renzi en Italie. Vous y voyez vraiment une influence de ces dons privés?
Dans le cas du parti travailliste anglais, c'est extrêmement clair quand on regarde les données, quand on regarde l'histoire du Parti travailliste. Le Parti travailliste anglais, c'est un parti qui a été créé par les syndicats et c'est un parti qui a été financé pendant des décennies par les syndicats. Ce lien financier entre le Parti travailliste et les syndicats a été abîmé au cours du temps, notamment à cause d'un certain nombre de mesures qui ont été mises en place justement pour affaiblir le lien direct de financement entre le Labour Party et les syndicats, la dernière d'ailleurs ayant été mise en place par Margaret Thatcher. Ça ne fait pas partie des mesures qu'on connaît le mieux de l'histoire de Thatcher, mais je pense que c'est une mesure qui a eu un énorme impact ensuite sur la vie politique anglaise. Quand vous regardez en Angleterre deux choses, vous regardez un, l'évolution des sources de financement du Parti travailliste, et notamment le pourcentage de financement en provenance de syndicats et le pourcentage de financement en provenance de dons privés d'individus ou d'entreprises. Et quand vous regardez en face la part des représentants, donc des élus du Parti travailliste, qui sont d'origine ouvrière ou employée, donc d'origine modeste. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir de la fin des années 80, en fait ça commence avant Tony Blair, mais c'est accéléré avec le virage du New Labour de Tony Blair à la fin des années 90. Mais ça commence dès la fin des années 80. On voit l'inversion de deux courbes où d'une part vous avez une chute complète de la part des ouvriers et des employés parmi les représentants du Parti travailliste et deuxièmement, et franchement les courbes c'est quasiment une corrélation parfaite, une augmentation de la part des financements du Parti travailliste qui viennent des dons privés. Et là on voit ce virage droitier du Parti travailliste, non seulement d'ailleurs dans le fait qu'il y a un changement de la sociologie, puisqu'on a introduit là-dessus avec Max Weber, il y a un changement de la sociologie des candidats et des élus du Parti travailliste, et deuxièmement, vous avez un changement des politiques qui sont mises en œuvre. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement frappant de voir qu'en Angleterre, c'est pas les conservateurs qui ont libéralisé le marché du travail, mais c'est le Parti travailliste de Tony Blair. Le Job Act en Italie, c'est pas la droite, c'est pas Berlusconi qui l'a fait, mais c'est le Parti démocrate de Matteo Renzi. Et en Allemagne, la flexibilisation du marché du du travail. La politique tournée vers l'exportation et la pression à la baisse des salaires, c'est pas la CDU qui l'a fait, c'est Gérard Schröder avec le SPD. Et finalement, le cas le plus frappant de retour de flamme, et là on voit finalement que les électeurs vont finir par punir ce parti de gauche, entre guillemets, même si c'est dur de tout appeler de gauche, mais si on voulait le définir dans un spectre français, de gauche, qui ne les représente plus, ce sont les électeurs les plus modestes, notamment les électeurs blancs les plus modestes, parce que les électeurs latinos et noirs ont continué à voter pour le Parti démocrate, ce sont les électeurs blancs modestes aux États-Unis qui préfèrent voter Trump plutôt que Clinton. Pourquoi ? Parce que c'est clair que si vous preniez sur les questions économiques, le programme économique d'Hillary Clinton n'était pas très éloigné du programme économique de Donald Trump. Il y avait des vraies différences sur les questions de société. Et là, le Parti démocrate américain, finalement, au cours des dernières années, s'est recentré sur ce débat autour des questions de société, qui ne sont pas des questions inintéressantes. Hein. C'est important l'avortement, c'est important les droits des femmes, c'est important l'égalité des minorités, c'est important le mariage pour tous, etc.
Mais sur les questions économiques, la politique était beaucoup plus libérale.
Au sens américain du terme, ça serait conservateur. Mais c'est devenu libéral au sens français.
Et alors, vous citiez tout à l'heure la situation en Allemagne. Et justement, comme les États-Unis, l'Allemagne semble constituer un contre-exemple, puisque les dons ne sont pas encadrés et les entreprises sont autorisées à financer la vie politique, ce dont la grande industrie ne se prive pas.
Non. Alors, surtout pas l'industrie automobile ni l'industrie pharmaceutique, puisqu'on trouve parmi les plus grands donateurs aux partis politiques allemands, Volkswagen, BMW, etc. Là, je veux souligner un point extrêmement important parce que c'est vraiment frappant dans le cas allemand. Et c'est ce que permet d'ailleurs la transparence des données. Si jamais vous décidez d'adhérer à un parti politique, j'imagine spontanément que vous allez choisir, disons, soit le Parti Socialiste, soit les Républicains, et que vous allez payer votre cotisation à l'un ou l'autre de ces partis, mais que vous allez sans doute pas, j'imagine, adhérer à la fois aux Républicains et au Parti Socialiste et payer deux cotisations. Normalement, quand on adhère ou qu'on fait un don à un parti politique, c'est quand même qu'on veut exprimer des préférences politiques. Eh bien, les entreprises allemandes, pas du tout. Vous prenez les entreprises allemandes du secteur pharmaceutique, du secteur de l'automobile, vous prenez Philip Morris, fabricant de cigarettes, qui finance aussi la vie politique allemande, vous avez des entreprises qui donnent chaque année à peu près des montants équivalents à tous les partis.
Et c'est l'idée les deux plus grands partis pour proche de celui qui gagnera à la fin.
C'est l'idée de s'assurer. C'est une assurance risque. Donc en fait, c'est pas vraiment que vous voulez faire de la politique. Peu importe pour vous que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, ce que vous voulez être sûr, par contre, c'est qu'il n'y ait pas de régulation du diesel, qu'il n'y ait pas de limitation des vitesses sur les routes, qu'il n'y ait pas d'interdiction de la publicité pour le tabac. L'Allemagne, c'est le seul pays avec la Bulgarie en Europe où les publicités pour le tabac sont toujours autorisées. Il se trouve que Philip Morris en Allemagne finance et la CDU et le SPD. Et là, on voit que c'est vraiment problématique que les partis politiques aillent se financer auprès de ces grandes entreprises, parce que les politiques qu'ils mettent ensuite en œuvre répondent en partie aux exigences de ces entreprises qui les financent.
On parlait tout à l'heure du financement de la campagne d'Emmanuel Macron, qui a donc été exclusivement financée par des dons privés. Mais en même temps, en tant que nouveau mouvement, La République En Marche n'avait pas le droit au financement public. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème, Julia Cagé ?
Si, il y a un problème. Et d'ailleurs, je tiens à dire que, parce que là, on est très négatif depuis le début de cette émission, mais que dans mon livre, il y a aussi pas mal de solutions. Donc on peut sortir de cette émission optimiste. Il y a un problème, pourquoi ? En fait, il y a deux problèmes avec le financement public de la démocratie aujourd'hui en France. Le premier problème, ce sont les réductions fiscales associées aux dons. On l'a dit tout à l'heure, ça profite qu'à une minorité de très aisés, mais il faut quand même savoir que chaque année, en réduction fiscale associée aux dons aux partis politiques et aux campagnes électorales, on dépense autour de 63 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment autant qu'en financement public direct de la démocratie. Donc en fait... entre parenthèses, Emmanuel Macron a profité de beaucoup de financements publics pour sa campagne électorale, sauf que c'était un financement public indirect au travers des réductions d'impôts. Quand quelqu'un lui donnait 7500 euros, c'était quand même 5000 euros à la charge de la collectivité, c'est important de le rappeler. Le deuxième problème du système français, c'est qu'il a mis en place un système de financement public direct des partis qui est un système figé par intervalle de 5 ans, puisqu'il dépend entièrement, quasiment entièrement, des résultats obtenus aux dernières élections législatives. En fait, très concrètement, il y a deux tranches. Une tranche qui dépend du pourcentage de voix que vous avez obtenu au premier tour des dernières élections législatives, et une deuxième tranche qui pourrait varier, mais qui de facto ne varie pas vraiment, qui dépend du nombre de parlementaires qui, chaque année, se rattachent à votre parti, à l'Assemblée et au Sénat. Donc ça varie très peu, c'est figé par intervalle de 5 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, vous créez en 2016 un nouveau parti qui va gagner l'élection présidentielle et l'élection législative, et ce parti n'a le droit ni en 2016 ni en 2017 à un financement public. Je veux dire, ce système marche sur la tête. C'était peut-être un système adapté au XXe siècle, quoique Je n'en suis même pas sûre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la vie politique, elle se renouvelle pas tous les 5 ans. Elle se renouvelle en permanence. On a vu le succès d'En Marche parce que ça a été un parti qui a été capable de lever de l'argent privé. Nuit debout, ça n'a pas pris forme politique finalement, parce que en fait, quand vous défendez des idées comme celle défendue par Nuit debout, qui était beaucoup plus redistributive d'un point de vue économique, c'est un peu plus difficile de convaincre des financeurs privés de vous donner un chèque.
Et là, en même temps, ça n'a pas empêché des mouvements comme Podemos, comme le mouvement 5 étoiles d'émerger.
Alors, c'est pas la France.
C'est pas la France, mais en l'occurrence, c'est des mouvements qui sont plutôt dans une optique de redistribution.
Oui, je suis d'accord, mais le système de financement public est différent dans ces différents pays. Il se trouve que le mouvement 5 étoiles n'a jamais tiré parti d'un financement public en Italie. Ils ont plutôt tiré profit de l'effondrement des autres partis. Moi, j'associerais plutôt l'émergence du mouvement 5 étoiles à ce qu'on soulignait tout à l'heure sur les politiques économiques menées par le Parti démocrate de Matteo Renzi. Il se trouve qu'en l'occurrence, en Espagne, le système fonctionne plutôt beaucoup mieux qu'en France en termes de financement public des partis. Vous avez un remboursement des dépenses de campagne qui est plus généreux et surtout, vous avez un système de financement public des partis qui ne dépend pas que des résultats aux élections législatives, mais de l'ensemble des résultats à un certain nombre d'élections intermédiaires. Et comme on a quand même des élections à intervalles réguliers, ça permet quand même de financer plus rapidement un certain nombre de nouvelles structures. Mais heureusement quand même que vous avez des nouveaux partis qui émergent de temps en temps. On va dire qu'en France, ça n'a pas empêché l'émergence d'En Marche, mais vous avez la plupart des nouveaux partis qui veulent émerger, qui partent avec un sacré boulet au pied.
Et vous proposez, Julia Cagé, de réallouer ces 60 millions d'euros d'abattement fiscal dans ce que vous appelez des bons pour l'égalité démocratique. Alors de
oui,
quoi est-ce qu'il s'agit?
Je propose de remettre à plat en fait l'ensemble du système, c'est-à-dire non seulement de réallouer les 65 millions d'euros de réduction fiscale, mais aussi le montant de subventions publiques directes des partis en un nouveau financement, les bons pour l'égalité démocratique, qui a deux avantages par rapport au système actuel. Un, d'être égalitaire. Deux, d'être dynamique. Donc c'est quoi pour les bons pour l'égalité démocratique? C'est un certain montant d'argent public, 7 euros dans le modèle que je propose, donné chaque année à chaque citoyen qu'il peut allouer sur sa feuille d'impôt au mouvement politique de son choix. Donc c'est vraiment le même montant d'argent public pour chacun des citoyens, et ça me paraît essentiel. Parce qu'encore une fois, je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui être dans un système où on dépense plus d'argent public pour financer les préférences politiques des plus riches que celles de la majorité, donc le même montant pour chacun des citoyens. Et c'est dynamique, puisqu'en fait, vous avez un renouvellement du coût du financement chaque année, et ça permet justement d'aider, si besoin, et puis s'il y a une offre politique, et s'il y a une demande de la part des citoyens, d'aider à l'émergence de nouvelles forces politiques.
Alors, il y a un autre enjeu qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le financement des think tanks, ces laboratoires d'idées qui peuvent avoir une réelle influence politique. Écoutons à ce sujet Michel Rocard, qui s'exprimait sur cette antenne en 1979.
À partir du moment où l'absence de financement public voue les forces politiques à la pauvreté, à peine corrigée de ci de là par un peu de fraude, parfois d'ailleurs beaucoup de fraude, mais enfin, ce n'est pas sain, et c'est pas le choix que nous avons fait nous autres. On ne finance que les campagnes électorales. Et je voudrais dire ici avec force, et c'est le message auquel je tiens sur ce problème-là, que bien avant de financer les campagnes électorales, il faudrait financer les bureaux d'études. Et je dis que la différence qu'il y a entre gérer la République française, assumer son avenir avec la complexité extrême que les administrations de conception spécialisée connaissent admirablement, et laisser les candidats à ces fonctions dans l'impuissance totale, dans l'incapacité d'avoir des instruments de préparation, de prévision de leurs propres interventions, est dramatique.
Voilà, 40 ans après ces propos de Michel Rocard, quelle est aujourd'hui la réalité du financement des think tanks, Julia Cagé?
En France, c'est toujours catastrophique. Il y a des pays qui font beaucoup mieux. Notamment, pour le coup, l'Allemagne est en avance sur la France. Hein, puisque en Allemagne, les think tanks sont rattachés directement aux partis politiques. Et vous avez un vrai financement public relativement généreux. En Allemagne, c'est l'équivalent de quasiment 7 euros par allemand et par an, le financement public des think tanks, seulement des think tanks. Vous avez un financement public extrêmement généreux qui dépend des résultats obtenus par les partis politiques.
Et pourquoi c'est si catastrophique en France?
Parce que pour deux choses. C'est que, un, il n'y a pas du tout de limite au financement privé. C'est-à-dire que, si vous avez de l'argent aujourd'hui en France et que vous voulez influencer le cours de la vie politique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez donner aux partis ou aux campagnes, mais il y a quand même des plafonds, donc vous êtes limité là-dedans. Vous pouvez vous acheter des médias aussi. Là, c'est pas encadré, c'est pas limité, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoique, c'est quand même une question importante que j'ai traitée par ailleurs. Troisième chose que vous pouvez faire, vous pouvez donner à des think tanks. Et d'une certaine manière, là, vous pouvez donner autant que vous voulez. Il n'y a aucun encadrement, aucune limitation, mais Par contre, parce que le système français marche sur la tête, ça ouvre droit à des réductions d'impôts. Et ce qui fait d'ailleurs que vous avez un certain nombre de think tanks qui sont pas du tout cohérents avec eux-mêmes. Par exemple, l'IFRAP, qui passe son temps à vouloir déstructurer l'État, qui met sur son site en énorme « Nous ne sommes pas financés par de l'argent public, contrairement aux autres », et qui met en même temps sur son site un simulateur de réduction fiscale, y compris pour les dons des entreprises, sachant qu'une réduction fiscale, y compris dans les bleus de Bercy, ça s'appelle une dépense fiscale de l'État, donc c'est une dépense du gouvernement, parenthèse fermée. Là où le système français marche aussi sur la tête, c'est qu'en France, vous avez un certain nombre de financements publics des think tanks, mais alors complètement non transparents et laissés complètement à la bonne volonté de deux différents groupes. Alors ça a été supprimé, mais d'une part, c'était les parlementaires avec la réserve des parlementaires. Alors à un moment, il y a eu un peu plus de transparence sur l'allocation des montants, mais c'est vraiment laissé au bon vouloir des différents parlementaires. Et puis maintenant, comment ça marche le financement des think tanks? Chaque année, c'est Matignon qui décide. Pour avoir eu affaire indirectement à Matignon au travers de l'Observatoire de l'éthique publique, je peux vous dire que ça se passe pas exactement de manière transparente. Et d'ailleurs, ça se voit très bien sur l'allocation des montants qui ne suit absolument aucune règle stricte, stable, etc. C'est pas normal si on considère que les think tanks sont une force importante, ce que disait Michel Rocard, dans le débat public en termes de débat d'idées, en termes de d'études, en termes de convictions politiques, d'une part qu'il n'y ait pas de régulation de leur financement privé, et d'autre part qu'on laisse finalement leur financement public au bon vouloir de ceux qui nous gouvernent.
Il y a un autre problème aussi qu'on peut soulever, Julia Cagé, et puis en même temps on soulève des solutions, c'est le fait que les comptes de la campagne présidentielle de 2017 n'ont été rendus publics qu'en janvier 2019. Alors comment expliquer qu'il ait fallu un an et demi pour vérifier les comptes?
Parce que vous avez... ça c'est les comptes des partis politiques de 2017 qui n'ont été rendus publics qu'en janvier 2019. Sur les comptes de l'élection présidentielle, ça a quand même été un peu plus rapide. Mais par contre, ce qui a été extrêmement long, c'est les comptes pour les élections législatives de 2017. Mais tout ça, c'est pour la même raison, puisque c'est géré par la même organisation, qui est la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. J'ai pas de notes, hein. C'est pas filmé.
C'est très impressionnant.
Je tiens à dire, qui a pas assez de moyens. Voilà, je trouve qu'on a beaucoup montré du doigt cette commission au cours des derniers mois, notamment justement sur la question des comptes des différents candidats à l'élection présidentielle, en disant mais comment se fait-il que ça prend trop de temps, comment se fait-il que la CNCCFP ait pas vu telle ou telle erreur, qu'ensuite les journalistes ont pu mettre à jour. C'est une commission qui n'a pas suffisamment de moyens. C'est une commission dont on a diminué les moyens drastiquement au cours des dernières années, alors même que vous avez introduit là-dessus les dépenses de campagne deviennent de plus en plus complexes. Et puis en plus, si vous prenez les élections législatives par exemple, vous avez de plus en plus de candidats, vous avez de plus en plus de partis politiques aussi chaque année dont il faut valider les comptes. Ça ne sert à rien d'avoir des règles strictes encadrant les dépenses de campagne et la vie démocratique si derrière vous n'avez pas les moyens, et les moyens financiers et les moyens humains de réguler le fonctionnement de cette démocratie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut redonner à la CNCCFP les moyens de travailler.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Julia Cagé. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la dimension démocratique de la crise des Gilets jaunes.
Absolument, une dimension inscrite au cœur même de ce mouvement populaire qui réclame l'instauration de nouvelles formes de démocratie participative. En effet, si la contestation a débuté par le refus de la mise en place d'une nouvelle taxe, pénalisant avant tout les classes populaires, le débat s'est rapidement déplacé vers la question de la justice fiscale et du consentement à l'impôt. Ainsi, la question n'est plus seulement de savoir s'il faut ou non augmenter les impôts, mais bien de s'interroger sur les personnes touchées et sur l'usage qui doit être fait de ces deniers. En clair, une taxe carbone, pourquoi pas, mais seulement si elle ne pénalise pas encore les plus pauvres et si elle est fléchée vers une politique de lutte contre le changement climatique. L'enjeu pour les Gilets jaunes et pour nombre de Français était donc de n'avoir plus à subir des politiques iniques décidées contre eux, mais de prendre part pleinement au processus de décision démocratique.
On a notamment beaucoup parlé du référendum d'initiative citoyenne.
Absolument, c'est même devenu l'une des principales revendications des Gilets jaunes qui explique ne plus se satisfaire de cette démocratie intermittente où ils ne sont entendus qu'une fois tous les 5 ans, sans pouvoir, dans l'intervalle, exercer le moindre contrôle sur leur gouvernement. Pourtant, le référendum n'est pas non plus exempt de risques et de critiques. Il a ainsi été maintes fois montré du doigt pour l'usage potentiellement autoritaire qui pouvait en être fait. Certains dénoncent en effet les risques de dérive d'un instrument de démocratie directe hautement manipulable. Si l'on peut s'interroger sur cette méfiance vis-à-vis de la volonté populaire, on peut néanmoins admettre que la logique binaire du référendum n'aide ni à la compréhension du sujet, ni à l'élaboration d'une réponse éclairée. Comment en effet répondre de manière juste et informée quand la seule alternative proposée se place entre l'approbation béate et l'opposition définitive ?
Autant de critiques auxquelles on tend répondre à un mode de démocratie participative, dite du jugement majoritaire.
Exactement, c'est d'ailleurs ce que défend une tribune intitulée « Réinventer le référendum » publiée dans le média en ligne AOC. Selon ses auteurs, le référendum pourrait ainsi être repensé pour devenir, je cite, « un véritable outil de pacification et de construction du consensus ». Le jugement majoritaire suppose ainsi de sortir de la logique binaire et réductrice du référendum pour redonner de la complexité et de l'intérêt au fait de voter. Concrètement, ce nouveau mode de scrutin permettrait aux électeurs de répondre à différentes propositions par une série de mentions comme « bien », « passable », « insuffisant » ou encore « à rejeter ». L'intérêt d'un tel procédé étant de présenter le panorama le plus fidèle et le plus fin possible de la volonté des électeurs dans leur pluralité et leur diversité. Les nuances dans les modes d'expression permettant également de limiter les phénomènes de polarisation ou de manipulation de l'opinion.
Les auteurs prennent ainsi l'exemple du référendum sur le Brexit qui, s'il avait suivi les règles du jugement majoritaire, aurait donné un tout autre résultat.
Oui, mais l'intérêt de ce mode de scrutin ne se limite pas au fait de donner une meilleure photographie de l'opinion. Cet outil permet non seulement de mieux prendre en compte la volonté populaire, mais aussi et peut-être surtout de rendre la décision plus légitime et donc plus acceptable. Les auteurs expliquent ainsi que le jugement majoritaire peut être utilisé à l'échelle locale comme au niveau national pour répondre à une consultation citoyenne ou voter un budget participatif. L'objectif étant non seulement de rendre compte des avis dans leur diversité, mais aussi de recréer du lien et du commun en impliquant les citoyens dans la vie de la cité.
The Prize de Stivo. Merci beaucoup Julia Cagé d'avoir épluché avec nous les comptes de nos partis politiques. Je renvoie les auditeurs à votre enquête très fouillée, le prix de la démocratie, publiée chez Fayard. Demain, direction le monde de l'entreprise à la recherche de la démocratie sociale. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.